chapitre 6. Verset 1er. Nous lirons jusqu'au verset 15 inclus. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus lui dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5 000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient l'enlever pour le faire, venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Amen. Partant de Tibériade, Jésus se rend de l'autre côté du lac, sur la rive orientale, et une foule importante s'y rend également. Attaché à ses pas, nous est-il dit, en raison des miracles que cette foule avait vu Jésus opérer. À cause des miracles, donc, la porte est fermée là-bas, oui. Miracle, la foule est donc attachée au pas de Jésus. Nous verrons tout à l'heure, nous consulterons le récit parallèle de l'évangile de Marc au chapitre 6 de Marc, qui nous apporte certains compléments intéressants. Et Jésus monte sur la montagne. Une fois arrivé de l'autre côté, avoir débarqué sur la rive orientale, il monte sur la montagne, c'est-à-dire sur un plateau, la montagne est tout de même assez haute là, et il monte sur un plateau qui domine le lac d'environ 600 mètres. Et donc, vraiment, une ascension, n'est-ce pas, 600 mètres, ça fait quelque chose. Et l'époque est indiquée ici, la Pâque était proche, la fête des Juifs, c'est-à-dire qu'elle était proche, nous étions, mettons, au début du mois de Nisan, c'est-à-dire dans la fin du mois de mars, au début du mois de Nisan, et c'est au 14e jour de ce mois de Nisan que la Pâque commençait. On pouvait donc être à une dizaine de jours, peut-être, on était au début du mois de Nisan, qu'on ne peut pas situer exactement dans le mois de mars, entre mars et avril, étant donné que ce mois ne coïncidait pas toujours avec nos mois actuels. Il variait un peu. Alors, Jésus et ses disciples, donc, ayant traversé la mer de Galilée, la foule, elle, avait contourné ce lac à pied. Marc 6 nous le dit, en effet, 6:33, « Beaucoup de gens les virent s'en aller, les reconnurent, et de toutes les villes, on accourut à pied, et on les devança au lieu où ils devaient se rendre. » On a couru à pied, on les devança. Pendant que Jésus traversait le lac, sans doute la traversée n'était-elle pas absolument droite. Vous savez, pour traverser un lac, s'il y a un peu de vent, on est obligé de faire un V, n'est-ce pas, de décrire un V. Eh bien, l'évangile de Marc nous dit donc que beaucoup les devancèrent là, on a couru à pied. Et il a fallu donc faire ces 20, 25, 30 kilomètres, je ne sais, n'est-ce pas, à pied. Mais on a couru, et les gens pressèrent le pas, allèrent vite pour les retrouver, pour ne pas les perdre, n'est-ce pas. Gardons bien les spécifications de l'évangile pour voir cette scène, n'est-ce pas, les gens se dépêchant, ne pouvant pas traverser, n'ayant pas de bateau, dépêchant, n'est-ce pas, pour arriver de l'autre côté, à pied. Et puis alors, une fois là, ils retrouvent Jésus et ils vont monter sur la montagne avec lui. Eh bien, chers amis, n'était-ce pas là la preuve d'une grande foi? Une grande foi. Et Jésus, en débarquant, va voir ces gens, soit, ils sont là formant une longue théorie autour du lac. Et ils soulèvent la poussière du chemin. Jésus les voit arriver précipitamment. Ils ont peur de se laisser distancer. Ils ont peur de ne pas leur trouver. Chose extraordinaire, mes amis. Il y a là donc une manifestation de grande foi. Ils se sont dépêchés, ils ont pressé le pas, ils ont presque couru pour devancer la barque. Ce ne sont pas, bien entendu, tous les gens de la foule qui ont pu faire cela, mais disons les éclaireurs de cette foule qui sont arrivés afin de pouvoir, en s'étirant le long du chemin, guider le reste de la foule. Et puis le Seigneur, bien entendu, le Seigneur du haut du ciel, le Père éternel, voyait cela, le Jésus le voyait, le Père le voyait, et bien entendu, il faisait en sorte qu'aucun de cette foule, aucun de ceux qui avaient le désir dans le cœur de s'approcher de Jésus, ne puisse manquer de le faire. À la foi répond toujours la grâce et la puissance surnaturelle à l'œuvre. S'il y a de la foi, il y aura toujours deux choses, grâce et puissance. La grâce sera là, la grâce ne se verra pas elle toujours, c'est une grâce qui va visiter le cœur, qui va visiter la vie intérieure, c'est une grâce qui agit à l'intérieur des hommes, mais la puissance surnaturelle va s'employer aussi au milieu d'eux. Il va donc toujours se passer quelque chose. À nous, nous sommes souvent désireux qu'il se passe des choses. Ben, nous sommes de la Pentecôte et nous voudrions qu'il se passe des choses. Nous annonçons des choses, nous voudrions qu'il y ait des choses. Nous sommes friands de ces choses. Mais si nous sommes friands, il faut l'être spirituellement et il faut aussi pouvoir manifester la foi. S'il y a de la foi dans nos cœurs et si notre foi vraiment se montre par notre attitude, par notre empressement, par notre zèle, eh bien, alors le Seigneur donnera sa grâce et emploiera sa puissance d'une façon évidente et abondante. Il va se passer quelque chose. Le Marc, au chapitre 6, toujours, et au verset 34, nous dit « Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule, et il fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. » Jésus, donc, est ému de compassion. Il éprouve de la joie et de la compassion. La joie, Jean l'a peut-être davantage traduite dans son récit. Sans la nommer, on voit, n'est-ce pas, Jésus entrer. C'est Jésus est heureux de voir cette foule qui s'empresse vers lui. Il a vu des foules, Mais quand des foules se sont constituées sans effort, cela ne lui a pas donné la même joie. Mais là, des foules qui courent, qui accourent, qui font un effort, qui parcourent une longue distance, qui se fatiguent pour venir vers lui. Alors là, la preuve d'une foi est faite. Et Jésus éprouve donc de la joie et de la compassion. De la compassion parce que il lit dans les cœurs de ces gens et il voit que ces gens sont démunis de bergers. Il n'y a personne pour leur enseigner la vérité, personne pour les conseiller, personne pour les redresser. Ils sont là. Israël donnait ce spectacle à ce moment-là. Des gens sans berger. Il n'y avait plus de berger en Israël. Et c'est une chose terrible. Et moi, je pense souvent, quand je passe sur ce passage, je pense souvent à un pays comme notre France. Bah, vous me direz, mais il y a les assemblées. Mais il y a des assemblées un peu partout. Si on prend une carte de France et qu'on met des petites punaises de couleur pour marquer l'emplacement des assemblées, n'est-ce pas, on verra la carte se couvrir de petites taches. Seulement vos petites punaises, elles sont larges comme ça. Elles couvrent, semble-t-il, un grand territoire. Et en réalité, si vous mettiez des petits signes discrets, ça, vous verriez qu'il y a de grands vides. Et puis, chers amis, il y a de grands vides. Voulez-vous que je vous dise, je vais dans des villes souvent importantes et je vois avec les pasteurs des assemblées de ces villes que la majorité des gens qui composent l'assemblée des grandes villes viennent de l'extérieur. Souvent, ils viennent de la campagne. Moi, on va aller chercher, les voitures arrivent, n'est-ce pas? Et puis, quand on regarde, eh bien, à l'intérieur de la ville, il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde de la ville même, de l'intérieur de la ville, il y a peu de monde. C'est une chose que j'ai constatée souvent, n'est-ce pas? Il n'y a pas grand monde de l'intérieur. Mais alors, ces villes qui s'agrandissent, ces grandes cités, ces sup, les villes, les cités suburbaines, n'est-ce pas? Eh bien, tout ça, est-ce que ça ne constitue pas des troupeaux, des gens qui sont sans berger? Et, chers amis, c'est pas parce qu'il y a une assemblée dans une ville qu'il n'y a pas une grande masse de population sans berger. Notre France est pauvre. Pauvre, plus pauvre qu'aucun autre pays. En église et en berger. Elle est pauvre. Souvent, on me parle, n'est-ce pas, des terrains de mission. C'est très intéressant, certes. Mais quoi, la Pentecôte, je ne sais pas combien elle a de pasteurs exactement, j'ai pas fait le compte. Mais enfin, c'est 100 et quelques, je ne sais pas, peut-être 105. Je ne sais pas si ça va à 150, j'en sais rien. Je n'ai jamais fait le compte. Mais c'est peu. C'est bien peu pour la population, pour 50 millions d'habitants. C'est bien peu. Et savez-vous que la population augmente bien plus vite que le nombre de nos convertis? Par conséquent, la foule humaine est maintenant une foule sans berger. Et quand on réalise les temps où nous sommes, les catastrophes qui nous attendent, les jugements qui s'approchent bien vite, on ne peut être que saisi de compassion. Et si nous comparions la scène que l'évangéliste Jean nous décrit ici, si nous les comparions, ces gens qui se rassemblent, à nos rassemblements modernes, que dirions-nous? Eh bien, nous ferions une première constatation, c'est que ces gens sont partis sans se préoccuper des provisions de bouche. Leur grand souci, ça a été de ne pas perdre Jésus. Ah, ils le regardaient, ils suivaient la barque. Dépêchons-nous, parce que tout à l'heure, n'allons plus voir où cette barque va aboutir, et puis nous ne pourrons plus, nous allons le perdre. Vite, allons, n'est-ce pas? Ils partent sans provision, Jésus le sait, les voyant venir, n'est-ce pas? Et c'est d'ailleurs pourquoi il va lui-même, le premier, parler de pain, n'est-ce pas? Ils n'ont pas de pain, ils viennent sans provision de bouche, tandis que dans nos rassemblements modernes, c'est la première des grandes préoccupations que nous avons, les provisions de bouche. Et nous partons avec des sacs bien garnis, parce que nous avons peur, pour une journée, même de manquer de quelque chose. chers amis, je ne dis pas ça seulement par ironie, n'est-ce pas, s'il y a un peu d'ironie en cela, eh bien, laissons-la cette ironie, mais pensons à la réalité dans le fond. Est-ce que cela ne prouve pas l'état de notre cœur? Chers amis, si nous venions nous rassembler avec une grande foi en disant « Nous voulons la grâce, et nous voulons la miséricorde, et nous voulons la puissance », mais nous venons souvent parce que quelque chose est organisé, hein, et puis nous venons faire un bon pique-nique. Et ce n'est pas là la foi que le Père attend, que le Père désire, c'est pas ça. Voyez-vous, alors nous sommes à côté de la foi. Il faudrait que, je ne dis pas qu'il est nécessaire que nous oublions les provisions de bouche, bien sûr, mais il ne faudrait pas que ce soit la première des choses, la grande préoccupation, les provisions de bouche. Il faudrait que nous ayons comme préoccupation dominante d'aller retrouver Jésus, d'aller ensemble pour que du haut du ciel le Père voit un rassemblement de gens qui ont faim et soif de vérité, de parole de Dieu, soif de grâce, soif de compassion, soif de miséricorde, car nous avons tous encore bien besoin de la miséricorde de Dieu. Nous sommes affligés d'une manière ou de l'autre, nous sommes faibles, nous avons bien besoin que la miséricorde de Dieu s'exerce sur nous. Et, chers amis, quand on lit dans ce récit de Jean et de Marc, ces foules qui accourent vers le Seigneur Jésus de l'autre côté, on pense à la fête, parce que ça va être une grande fête, mais une fête céleste qui va se dérouler, une fête céleste que sera le rassemblement de ce peuple autour du Seigneur. Ça va être une vraie fête céleste, si nos rassemblements à nous pouvaient être cela, une fête céleste. Ah, mes amis, je crois que nos rassemblements, ils rentrent aussi dans l'organisation, dans quelque chose qui tient de la forme, quelque chose de trop prévu, de trop organisé, chers amis. J'ai peur de cela, voyez-vous. Et si, au contraire, nous pouvions courir à une vraie fête céleste, une vraie fête céleste. Jésus va poser une question à Philippe, et Philippe va y répondre. Jésus, ayant levé les yeux, voyant qu'une grande foule venait à lui, dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Mais Jésus, en posant cette question, d'ailleurs le texte nous le dit, il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Jésus était déjà en possession de l'œuvre qu'il allait accomplir. Nous avons vu dans l'étude de cet évangile, n'est-ce pas, que Jésus ne fait que les œuvres qu'il voit faire au Père. C'est-à-dire, n'est-ce pas, sa pensée est toujours là, auprès du Père, et il se laisse guider, il ne fait rien de lui-même. Je ne fais rien de moi-même. Rien, absolument rien. Le Fils de l'homme ne fait rien de lui-même. Il fait ce qu'il voit faire au Père, uniquement. Et toutes ces œuvres-là, le Père les prépare. Le Père les donne au Fils. Le Père les accomplit, on peut dire, par le Fils. Et le Fils offre sa volonté, lui, spontanément, avec joie, pour accomplir la volonté du Père. Eh bien donc, cette œuvre était dans la pensée du Père, Jésus le savait, il tenait donc déjà cette œuvre, il la tenait. Avant qu'elle ne commence, il n'y a rien, vous voyez là d'improviser, mais quelque chose que Dieu veut faire. Philippe est ce disciple qui, en la circonstance, exprimera la pensée moyenne des autres, et c'est pourquoi c'est à lui que Jésus s'adresse. Philippe va tout simplement répondre à la question de Jésus, où achèterons-nous des pains pour que tous ces gens aient à manger? Eh bien, Philippe va répondre, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. La foule était grande, bah, on pourra l'évaluer à plus de 10 000 personnes. Alors, 200 deniers, c'est pas ce que vaut le denier romain aujourd'hui, n'est-ce pas, cette monnaie romaine, on ne peut pas savoir, étant donné que notre monnaie a tellement changé, on ne peut pas savoir. Mais disons, elle peut valoir, si vous voulez, avançons un chiffre, 25 à 30 francs, mettons que ce soit 25 francs, 25 de nos francs actuels, n'est-ce pas ? Alors, 200 fois 25, ça ferait 500 000 anciens francs, n'est-ce pas ? C'est-à-dire un demi-million d'anciens francs. Alors, Philippe prend cette norme, Seigneur, même si on avait un demi-million, on est loin d'avoir ça, on est loin, il y a quelques petites pièces sans grande valeur dans le fond de notre bourse commune, mais même si on avait un demi-million à nous, mais on irait acheter des pains, il n'y aurait pas assez, on serait bien loin, alors quelle somme ne faudrait-il pas, une somme impossible à réaliser, lui il voit ça, n'est-ce pas? Il est sur la terre, il a les vues de la terre, acheter des pains, puis le Seigneur lui a parlé d'acheter des pains, n'est-ce pas ? Mais lui, il est resté à cette vision purement terrestre. La réponse donc est sensée, la réponse est judicieuse, mais elle est complètement dénuée de foi. Complètement dénué de foi. Il n'y a pas de foi. Et le Seigneur a voulu éprouver son disciple, et puis le disciple, on pourrait presque dire, il est tombé tout à fait dans le panneau, dans le mauvais panneau, n'est-ce pas ? Et il a montré que dans son cœur, il ne pensait pas à la foi. C'est pas que mauvaise volonté, mais il ne pense pas. Souvent chez nous, ce n'est pas de la mauvaise volonté non plus. Oh non, ça pas. Voudrions bien exercer la foi, mais nous n'y pensons même pas. On n'y pense pas. Alors on raisonne comme des terriens que nous sommes, des terriens, alors on raisonne en terriens, nous ne sommes plus, à certains moments, il y a bien des moments, de ces créatures qui sont assis dans les célestes avec Christ, nous sommes assis par terre, assis sur la terre, nous sommes devant les choses de la terre, et nous ne savons pas élever nos cœurs vers les célestes par la foi. Quelle aurait pu être la réponse de Philippe ? Eh bien, je ne suis plus à imaginer ce que pouvait être cette réponse. Elle aurait pu être celle-ci, par exemple. Ben, le Seigneur lui dit, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Alors, Philippe aurait pu dire, « Eh bien, nous sommes dans l'impossibilité d'acheter des pains. Ben, » répondant du tac au tac au Seigneur, « Sommes dans l'impossibilité d'acheter des pains pour une telle foule. » Ça, c'est pas discutable. Mais Seigneur, dis un mot, et tous recevront le pain que ton Père leur donnera par tes mains. Dis un mot, Seigneur, et du pain, eh bien, Dieu le donnera, et c'est toi qui le distribuera. Ça aurait été la réponse de foi, et ça aurait été une réponse qui aurait étonné Jésus, qui aurait augmenté sa foi, ravi son cœur, comme devant la réponse du centenier, qui dit, moi, j'ai des serviteurs, moi, j'ai des soldats, je dis à l'un, va, et fais cela, il va, et il le fait, alors toi, dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Jésus fut dans l'étonnement. Ah, chers amis, quel bel étonnement nous pouvons provoquer, cet étonnement-là que le Seigneur voudrait souvent recevoir de ses enfants. André, et qui est le frère de Pierre, a une petite idée. Il a remarqué, en examinant cette foule, un jeune garçon qui avait avec lui un peu de provisions, ces provisions consistant en 5 pains d'orge et 2 poissons. Alors, il a vu cela, et il en fait part. C'est pas peut-être une petite lueur de foi. 5 pains et 2 poissons, Seigneur. Il faudrait sans doute amplifier tout ça. Quand on pas une pareille chose, quand même, la raison reprend vite ses droits. Qu'est-ce que c'est que ça pour tant de gens, Seigneur ? Tant de gens. Voilà, tout ce que nous avons. 5 pains, tout ce que j'ai pu découvrir. 5 pains et 2 poissons chez un petit garçon. Seigneur, pour toute une foule comme ça, n'est-ce pas ? Alors, lui, il a eu une petite lueur de foi, puis vite, il est retombé. Ce qui est notre cas souvent, qui nous arrive souvent, n'est-ce pas ? N'arrive-t-il pas en effet que nous passions à côté d'une manifestation de foi qui aurait
été possible, nous aurions pu, si nous avions voulu, manifester la foi. Puis on est passé à côté, comme Philippe, comme André, ils passent à côté de l'occasion. Ils ont manqué l'occasion de manifester la foi. Et chers amis, je suis persuadé que ça nous arrive à nous, souvent, n'est-ce pas, de manquer l'occasion. Nous aurions des occasions dans la vie courante, nous aurions des occasions, et si nous saisissions les occasions, ah, naturellement, attention, il ne faut pas demander n'importe quoi, en écervelé. Bah, le christianisme ne se vit pas dans le désordre, mais évidemment dans la pensée, une pensée qui est toujours en relation avec le Seigneur, avec celle du Seigneur. Quel contraste pouvons-nous encore remarquer ici entre la pensée des disciples et celle du Seigneur? Le Seigneur, lui, pense au miracle, il voit déjà son miracle. Pour lui, la chose est toute simple, n'est-ce pas? La puissance du Père est là, et il est comme celui qui la retient déjà, parce que tout à l'heure, elle va exploser, cette puissance, à travers ses mains, elle va se manifester. Il est là qui la contient jusqu'au moment décisif, qu'au moment où il va rendre grâce, n'est-ce pas? Mais il voit cela, il est sûr, il n'est pas inquiet, il voit cette foule, elle va être nourrie dans des circonstances surnaturelles, et la pensée des disciples est là à chercher les moyens. Oh, comment on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Tous ces gens-là, comment leur donner à manger? Jésus va ordonner à ses disciples de faire asseoir la foule. Et c'est à ce moment-là que l'évangéliste nous dit qu'ils s'assirent au nombre d'environ 5000 hommes. Pourquoi l'évangile nous dit-il ça, nous donne-t-il le décompte à ce moment-là? C'est que dans une foule composée de juifs, les femmes et les enfants ne s'asseyaient pas avec les hommes, les chefs de famille ou les grands-fils. Les hommes s'asseyaient d'un côté, les femmes de l'autre. C'était ce qui se passait aussi dans la synagogue, dans les maisons en général aussi. Les hommes étaient d'un côté, les femmes de l'autre, bien qu'il n'y ait pas cette séparation qu'on trouve chez les Arabes, malgré tout. Il n'y avait pas de mise en commun, de repas en commun, les hommes et les femmes se trouvaient, et les enfants se trouvaient séparés. Et alors là, le décompte, n'est-ce pas, se fait sur les hommes, uniquement sur les hommes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes, on a compté les hommes. Ben, puis tout le reste, bien sûr, il y avait les femmes et les enfants qui correspondaient à ces 5000 hommes, n'est-ce pas? Mais on ne les a pas comptés. Alors ça faisait une foule de plus de 10 000 personnes. Mettons, n'est-ce pas, une femme par homme, ça ferait par conséquent 10 000, et les enfants, nous ne pouvons pas savoir combien ça faisait. Alors il y a un détail que l'évangile de Marc nous livre et qui n'est pas dans celui de Jean. C'est verset 39, 6:39 dans Marc. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Voyez-vous, là, il y a, nous sommes au printemps, l'herbe verte, le gazon est très frais, très joli, et le Seigneur dit, eh bien voilà, nous sommes sur un plateau, il y a de quoi vraiment, n'est-ce pas, asseoir tout le monde. Mais est-ce que ça va se faire dans la pagaille? Non. Non. Et le Seigneur ordonne de les faire asseoir par rangée. Certainement, l'ordre du Seigneur a été plus précis que ne le rapporte l'évangéliste, n'est-ce pas? Et le Seigneur a dit, faites-les asseoir. Il y avait peut-être, on a peut-être pris motif d'une habitude, je ne sais, n'est-ce pas? Mais on a fait asseoir par rangée de 50 et de 100. Il y avait donc des groupes bien déterminés. Et il y avait toujours dans l'esprit du peuple l'ordre.
qui régnait autour du tabernacle lorsque les 12 tribus étaient rangées. Lorsque les tribus, n'est-ce pas, étaient dans un ordre parfait, chacun derrière son prince, son chef, et puis quand on marchait, il y avait aussi un ordre prescrit, n'est-ce pas ? Eh bien, le Seigneur Jésus, voyez, là, a ce même souci d'ordre. On ne va pas laisser la foule s'asseoir n'importe comment, ça non, et puis il faut faire des distributions. Alors, il faut qu'on puisse passer dans les rangées, pour faire des distributions. C'est extraordinaire, voyez-vous. Nous trouvons là un mélange de surnaturel, la multiplication des pains. De ce côté-là, on ne s'occupe pas des ressources de la terre, on ne reste pas dans les limitations de la terre, on s'en échappe, et combien. Et puis, de l'autre côté, n'est-ce pas, le surnaturel vient s'insérer dans l'ordre naturel. Et de ce côté-là, alors il faut... vraiment, adopter quelque chose qui soit de la sagesse, d'une sagesse terrestre peut-être, ou d'une sagesse céleste, et qui a son reflet sur la terre. Il faut de l'ordre. Tirons le son de cela, voyez-vous, le surnaturel qui entre dans les contingences du naturel, mais il faut de l'ordre. Et j'en tirerai, si vous voulez, une petite leçon pour nos réunions, quelles qu'elles soient, et notamment nos réunions de culte. Dieu est un Dieu d'ordre, nous dit l'apôtre Paul. Il faut de l'ordre. Il faut de l'ordre. Et l'ordre, ce n'est pas la forme. La forme, c'est la forme détestable, la forme à rejeter. C'est celle qui supplérait l'absence du surnaturel. C'est celle qui voudrait remplacer l'esprit. Mais lorsque l'esprit est venu, parce que les cœurs sont ouverts, parce que les cœurs sont remplis de foi, parce qu'il y a de l'obéissance dans le peuple, qui est la grande manifestation de la foi, alors à ce moment-là, le surnaturel, l'esprit est là, mais l'esprit désire venir s'insérer parmi nous qui sommes sur la terre dans un certain ordre. Et c'est pourquoi nos réunions ne doivent pas être pagailles. Chacun son tour, nous dit le chapitre 14. Moi, je suis étonné qu'on on ne lise pas ça. On lit ce chapitre pour y trouver, n'est-ce pas, des éléments touchant les dons spirituels, notamment les dons vocaux, le parler en langue, la prophétie. C'est très bien. C'est très bien ça, mais prenez tout. Prenez aussi l'ordre. Chacun son tour, n'est-ce pas? Voyez-vous? Et ne disons pas, comme l'ont dit certaines sottes gens, parce qu'il y a quelquefois des sottes gens qui voudraient parler au nom de la foi et qui parlent au nom de leur sottise, n'est-ce pas? Et qui disent, ah, comprenez, vous faites de l'ordre, vous voulez imposer des choses, alors là, vous fassez le Saint-Esprit. Mais pas du tout, je ne fasse rien. Le Saint-Esprit, il viendra, c'est selon mon cœur qu'il viendra. C'est le cœur qui fait venir le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas parce que j'adopterai de l'ordre que je chasserai le Saint-Esprit. Pas du tout, au contraire. Le Saint-Esprit aimera se manifester dans l'ordre, parce que l'ordre, c'est aussi un respect. L'ordre est un respect à l'égard de Dieu. Et Dieu a toujours voulu qu'il y eût de l'ordre. D'ailleurs, nous voyons aujourd'hui, écoutez, le désordre, n'est-ce pas ? D'après les descriptions qu'on a du rassemblement hippie d'Aix-en-Provence en ce moment, n'est-ce pas ? Alors là, c'est la grande pagaille. Là, c'est la grande pagaille. Alors, l'image de ce monde dévoyé est une image de désordre. Tandis que l'image, n'est-ce pas, de la sainteté d'un peuple qui est saint, qui est un saint sacerdoce, cette image doit être une image d'ordre. Et alors, le Seigneur va rompre les pains, rendre grâce. Rendre grâce comme le père de famille. Au milieu de cette grande famille, n'est-ce pas, nous voyons un grand repas. Vous n'avez jamais assisté à un repas juif, c'est dommage. C'est une expérience que le Seigneur m'a donné de faire. Pas à un repas, mais même à plusieurs repas réassister. Des repas
dans une grande famille juive, avec le chandelier à cette branche, c'était très impressionnant. Ah, pour une fête. Alors j'ai été l'invité, c'était un honneur exceptionnel d'ailleurs d'être invité, n'est-ce pas, à cela, et j'étais à côté du patriarche, chef de famille. Et tout à fait à côté, il m'avait donné la place, et lui était au milieu de cette vaste table, c'était une grande pièce, très grande pièce, il y avait beaucoup de convives. J'étais un petit peu gêné, moi, là, au milieu, mais enfin, j'étais très heureux d'y être quand même. Eh bien, le moment est arrivé, n'est-ce pas, où l'on a commencé le repas, et puis alors, le patriarche a rendu grâce, a fait des prières en hébreu, hein, fait des prières, et le repas a commencé. Si vous aviez vu cette crainte, quand même, il y a une chose que nous devrions hériter des Juifs. Je crois que notre foi n'est pas assez passée par l'éducation de l'Ancien Testament. Voyez-vous, nous aurions besoin, non pas de judaïser, mais nous aurions besoin d'une éducation judaïque, d'une formation judaïque, et pour apprendre notamment, n'est-ce pas, le respect et la crainte de Dieu. Nous en avons besoin, la crainte filiale de Dieu. Pas la crainte, la peur, mais la crainte filiale. Et je vous assure que c'est impressionnant de voir les Juifs, quand on parle de Adonai, le Seigneur, n'est-ce pas, de voir, évidemment, vous direz, ils vivent, ils n'ont pas la vérité, ils sont le peuple qui a rejeté Jésus, ils sont ce reste, bien sûr, mais ils sont sous le châtiment, ils ont subi le châtiment de leur rejet. Et puis, ça s'est passé il y a combien de générations, n'est-ce pas? Eux, ils sont les héritiers de cela. Mais malgré tout, dans leur ignorance, dans leur semi-ténèbres, il y a tout de même, n'est-ce pas, une conservation de ce qui a prévalu autrefois dans le peuple d'Israël, cette crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup au milieu des Juifs, ça. Cette crainte de Dieu, essayons de la connaître, nous, et dans nos réunions, et partout, quand nous sommes au nom du Seigneur, soyons, ayons cette crainte, apprenons-la, nous en avons besoin. Alors, n'est-ce pas, comme le chef de famille, Jésus, là, je vois Jésus debout, toute cette foule assise, cette grande foule assise, et Jésus, à qui ses disciples, il y a ses 12 qui sont là, et alors il lui passe le pain. Il y avait 5 pains. Il prend un pain, il le rompt. Il prend un autre, il le rompt. Et comme ça, et le 5e. Et puis quoi? Et puis ça continue. Comment? Inexplicable. Mais ça continue. Les mains du Seigneur vont continuer de rompre, de remplir des paniers qu'on met là. On a pris tous les paniers de voyage qui étaient avec cette foule vide. Ils étaient ces paniers. On les apporte et les disciples en ont chacun. Et alors ils viennent devant le Seigneur qui rompt le pain, qui met des morceaux, et ils s'en vont avec des paniers, et ils le passent parmi les rangées, ils distribuent, puis les disciples reviennent, le Seigneur est toujours en train de rompre, et je vois le regard des disciples se portant sur les mains du Seigneur, c'est pas le voyant rompre des pains constamment. Savez-vous combien de temps ça a duré? Pour 10 000 personnes et plus. N'est-ce pas? Le surnaturel, évidemment, n'a pas besoin de temps. Mais lorsqu'il s'insère dans le naturel, alors le naturel impose ses limitations, et notamment sa limitation de temps. Eh bien, j'ai calculé que ça avait dû durer plus de 2 heures. Plus de 2 heures. Pour donner, rassasier cette foule. Et le Seigneur a continué de rompre des pains. Il n'était pas fatigué, bien sûr. Ah là, non. Bien sûr, quand on fait, on accomplit, n'est-ce pas, les choses de Dieu, on ne peut pas être fatigué. Eh bien, il rompait, il rompait. Alors, je vois les yeux de Pierre. Oh, il n'a pas posé de questions à ce moment-là, mais il devait en avoir des questions dans le cœur. Oh, voyons le Seigneur, oh, il se dépêchait d'aller vider sa corbeille, puis il revenait avec sa corbeille, et puis le Seigneur continuait de remplir. Si vous aviez vu cela, qu'auriez-vous dit? Ah, oh, chers amis. Pourtant, ça s'est passé, cela. Ça a eu lieu. Et ça a commencé. Le miracle a commencé au moment où le Seigneur a rendu grâce. Je te rends grâce, Seigneur du ciel et de la terre. Tu rends grâce, toi qui donnes la nourriture aux oiseaux. Toi qui donnes à tous, à toutes tes créatures la nourriture. Tu as maintenant des créatures, tu les nourris maintenant. Il n'a pas dit tu vas les nourrir, il a dit tu les nourris maintenant. Tu nourris, et pendant qu'il rendait grâce, ses mains se sont mises à l'œuvre, et les morceaux sont tombés dans les corbeilles, sans s'arrêter, jusqu'à ce que tout le monde ait été rassasié, et qu'ils en aient autant qu'ils en voulurent, dit l'évangile de Matthieu. Ils en eurent autant qu'ils en voulurent. Ah, c'est une chose magnifique. Le Seigneur, s'il a fait ce miracle, c'est parce qu'il avait quelque chose à enseigner par ce miracle. Et il a quelque chose à nous enseigner, bien sûr, par ce miracle. Et il a aussi, chers amis, beaucoup de choses à faire, qu'il voudrait faire, des choses étonnantes, et même des choses plus étonnantes encore, nous dit l'Évangile, qu'il voudrait faire s'il avait des églises où il y ait la foi, où il y ait des gens tendus vers lui, non pas préoccupés de leur petite personne sur la terre, mais préoccupés de la grâce, préoccupés de la gloire. Ah, le Seigneur voudrait en faire encore des miracles. Il voudrait, savez-vous que j'en ai vu, des miracles. Ah oui, j'en ai vu. Parce que un jour j'ai dit au Seigneur, mais on parle toujours de miracles et on nous parle de guérison. C'est bien, c'est des miracles, c'est vrai. Mais dans l'Écriture, il y en a d'autres. Et tu as dit que les œuvres que le Seigneur Jésus a faites, ceux qui croient les feraient aussi. Et je voudrais en voir d'autres. Et j'en ai vu, chers amis. Ce n'est pas le moment de vous les raconter, mais je peux vous dire que j'en ai vu. Ramassez les morceaux, va dire le Seigneur Jésus. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Le miracle pourtant n'a pas été fiche, autant qu'ils en voulurent. Le miracle a été abondant, c'est l'abondance, je vous l'ai déjà dit. Lorsque Dieu donne quelque chose, c'est l'abondance. Il y a abondance, surabondance, c'est-à-dire plus qu'on en peut consommer, qu'on en percevoir. Lorsque des flots de grâce et d'esprit viennent sur quelqu'un, lorsqu'il est vraiment baptisé du Saint-Esprit, vraiment, qu'il reçoit, n'est-ce pas, ces fleuves, ces ondes célestes, eh bien, il est arrivé comme à des gens comme Finet de dire, et à d'autres, j'en connais d'autres, qui ont dit, ah Seigneur, « Ah, j'en puis plus, Seigneur, arrête, assez, ou sans quoi je vais mourir. » C'est ce qu'avait dit Finet. « C'est trop fort, c'est trop... Arrête, l'abondance !» Et on va jusqu'à l'abondance, jusqu'à la plénitude, et l'abondance correspond à la plénitude, n'est-ce pas? Il y en avait donc plus qu'on en pouvait manger. Et le Seigneur va dire de ramasser les morceaux, et lorsque les disciples vont le faire, ce sont 12 paniers pleins de morceaux qu'ils vont avoir, et pas des petits paniers, 12 paniers, ça faisait bien plus que les 5 pains, cela, déjà. Il y en avait dans les corbeilles, dans les paniers, plus que les 5 pains n'auraient pu en mettre. Et toute la foule avait été nourrie. Mais alors, le Seigneur dit ceci, afin que rien ne se perde. Comment ? On pourrions dire ceci, n'est-ce pas ? Nous qui sommes des petits raisonneurs, nous pourrions dire, mais voyons, le Seigneur, il peut créer tout. Il peut créer autant de pain qu'il veut. La foule aurait-elle été double ? Eh bien, il aurait rassasié le double. Il peut créer autant de pain. Alors, pourquoi s'inquiéter des restes ? Qu'est-ce que ça peut faire ? Bon, qu'est-ce que ça peut faire ? Les restes sont perdus, il n'y a qu'à laisser là. Les chacals viendront le manger. Il n'y a qu'à laisser ça, n'est-ce pas ? C'est sans importance. Non, pas ! Non pas, ce n'est pas la volonté de Dieu.
Mes chers amis, au mois dernier, j'espère que ça ne va pas se reproduire ici, je suis plusieurs fois allé à la cuisine et les dames de la cuisine m'ont montré avec un certain mécontentement des corbeilles de morceaux de pain, de bons morceaux de pain qui avaient été jetés. Vous savez qu'on a même trouvé du pain beurré dans la poubelle. Chers amis, dites-moi si c'est cela que veut le Seigneur. Voyez-vous, il ne faut pas que cela se reproduise, mes amis. Non seulement parce que cette œuvre n'a pas d'argent à perdre. Tout doit être compté, n'est-ce pas? Mais parce que le Seigneur ne le veut pas. Il donnera l'abondance, mais il ne veut pas qu'on gâche et qu'on perde. C'est le Seigneur qu'il veut ainsi, n'est-ce pas? Voyez-vous que je dis en passant, cela, ce n'est pas la seule conséquence de notre texte, mais c'est une petite conséquence localisée, n'est-ce pas? Mais que cela ne se produise pas. Veillez à cela. Qu'il n'y ait point de morceaux de pain qui se perdent. Parce que vous feriez injure au Seigneur, vous seriez dans la désobéissance. Si vous jetez un morceau de pain, vous désobéissez au Seigneur. Parce qu'il a dit, afin que rien ne se perde. Qu'a-t-on fait de ces morceaux? Eh bien, on les a mangés sans doute sur le retour, on les a consommés, on en a fait quelque chose, mais on ne les a pas perdus. Et le Seigneur ne voulait pas qu'on les perde, alors que pourtant, il pouvait en faire tant et tant. 12 paniers. Il y avait 12 paniers. Vous savez que le Seigneur Jésus, dans un évangile synoptique, fera ressortir, rappellera à ses disciples le nombre 12 de la première multiplication. On est ici dans la première multiplication des pains. Le nombre 12 de corbeilles. Dans la seconde multiplication, le nombre des corbeilles laissées, des corbeilles de morceaux, n'est-ce pas, qu'on n'a pas mangé, est au nombre de 7. 12. 12, c'est le nombre des apôtres. C'est celui des tribus de Judas. Ce sont les fondements humains de l'œuvre magnifique du salut. Les fondements humains des 12 fondements. N'est-ce pas? Les 12 fondements de la cité céleste. Les fondements humains. Puisque l'homme, c'est lui qui est l'objet de la miséricorde de Dieu. C'est lui que Dieu sauve. Et bien il a placé au sein de cette humanité pécheresse qu'il vient sauver, il a placé un fondement 12 tribus, 12 apôtres. Et ce chiffre 12, nous le retrouvons dans toute la loi mosaïque. Le chiffre 12, c'est le fondement humain. Mais quand viendront les fondements divins, quand viendront les manifestations divines, elles seront, elles, marquées du chiffre 7. C'est pour ça que la seconde multiplication, la première multiplication, c'est le peuple d'Israël qui prépare une seconde multiplication. La seconde multiplication, elle, c'est l'Église, n'est-ce pas? C'est le temps nouveau, c'est le royaume de Dieu en préparation, et alors là, c'est le chiffre 7. Ce sont les 7 chandeliers, ce sont les 7 esprits, les 7 cornes de l'agneau. C'est le chiffre 7 qui prévaut, parce que tout vient d'en haut. Là, c'était les fondements humains pris en bas, là, ce sont les fondements pris en haut, et les deux, Israël et l'Église, l'Israël physique, l'Israël de Dieu, constituent ensemble les grands desseins de salut de Dieu, le 12 pour le 7 et le 7 sur le 12. Voilà ce que le Seigneur a voulu faire comprendre d'autre part à ses disciples. Et puis nous arrivons à la fin de notre passage. Les gens qui avaient vu le miracle que Jésus avait fait disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne. Que dira cette foule après avoir vu un tel miracle? Quelle sera sa pensée? Tout simplement faire de Jésus un roi. Et un roi maintenant, là, pendant ce temps. Ils pensent à ça. Établir le règne de Christ en ce monde. Alors, ça
changerait bien des choses, bien sûr. On souffre sous le joug romain, et ça changerait beaucoup de choses. Nous aurions à nouveau un David au milieu du peuple d'Israël. Et qui pourrait combattre contre le peuple? N'est-ce pas? Il voit l'ancienne économie reprendre toute sa forme, toute sa force. Et c'est cela, à cela qu'il pense. Ils ne sont pas dégagés de la terre. Ils n'ont pas compris une grande chose. Ils n'ont pas compris que le règne de Christ ne peut pas venir ici-bas, c'est-à-dire en ce siècle-ci. Il ne peut pas être de ce siècle-ci. C'est pas possible. Le règne de Christ, mon règne n'est pas d'ici-bas. Mon royaume n'est pas d'ici-bas. Ce n'est pas possible. Et mais ça, la foule ne l'a pas compris. Si le règne de Christ s'était établi en ce monde, mais alors, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait amélioré les choses, bien sûr, la situation des Juifs, il aurait redonné à l'État juif sa force, il aurait fallu pour cela agir par puissance, mais par force charnelle, il aurait fallu agir par force, n'est-ce pas? Comme maintenant le peuple d'Israël qui se reconstitue en nation sur le territoire donné à ses pères, selon la volonté de Dieu, bien sûr, il est obligé de reprendre une force charnelle, une force humaine, une force armée, il est obligé puisqu'il devient une nation, n'est-ce pas? Alors, il aurait fallu cela, il aurait fallu agir sur la puissance maligne de ce monde. Oui, ça aurait été très bien, ça aurait été peut-être pour la satisfaction des Juifs de ce temps, mais quoi pour l'éternité? Quoi pour l'éternité? Mais rien, rien pour l'éternité. Ni les païens, ni les Juifs eux-mêmes, ni personne n'aurait été changé, n'aurait été transformé, ne serait passé de la chair à l'esprit. Rien, rien, on serait restés tous dans ses péchés. Sauf le Seigneur, qui aurait fait tâche au milieu des autres, on serait resté dans ses péchés, on aurait été heureux avec tout son lot de péchés, on serait resté l'homme naturel, on n'aurait pas reçu la vie. Quoi pour l'éternité? Rien. Et c'est l'une des grandes erreurs du catholicisme, n'est-ce pas, notamment d'avoir voulu rétablir le règne de Christ sur cette terre, à Byzance, à Rome et partout, n'est-ce pas, le pape ou autre personnage se fera à nouveau un Christ régnant avec la force temporelle, régnant sur le monde, mais c'est faux, mais ça crie, mais c'est... Ce sont les desseins de Dieu entièrement renversés. Comment voulez-vous changer des gens si le règne de Christ est déjà là? Et la théologie catholique de nous expliquer que le royaume de Dieu, eh bien le royaume de Dieu, que ce sera Israël, sera obligé d'y venir, d'y rentrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est déjà l'Église romaine, et puis ça va remplir toute la terre, mais c'est ça, et c'est l'Église romaine, pas pantée. Le royaume de Christ, le royaume de Dieu, c'est ça, mais personne n'est changé, personne n'est transformé, tout le monde est frère, tout le monde est homme naturel, tout le monde est mort par ses offenses, le pape en tête. Alors, c'est ça que l'on veut, le faire roi le Seigneur. Mais ça a été Satan qui a rêvé ça et qui a offert au Seigneur les royaumes de ce monde. Moi, je te les donne tout de suite, ils sont à moi, je te les donne. Oh, n'apporte surtout pas la vie d'en haut. Non, je te les donne. Je te les donne maintenant. Fais donc l'économie de la croix. Ne va pas souffrir. Ne va pas au-devant d'un temps de tribulation, car c'est par beaucoup de tribulation qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu tel que Dieu le veut. Eh bien, non, fais l'économie de tout cela. Je vais te donner, moi, les royaumes de cette terre. Établis ton royaume. Ça a toujours été ça, la grande tentation de Satan, à laquelle le romanisme a cédé, et il est encore en train de céder, il n'a pas perdu cette vision démoniaque
d'établir le royaume de Dieu sur la terre par son moyen à lui, avec sa nuit, avec ses ténèbres. C'est pourquoi le romanisme est une chose abominable. C'est pourquoi c'est la grande abomination. Et c'est pourquoi il y a à Rome, bien sûr, n'est-ce pas, cette ville, la prostituée. La prostituée qui s'est corrompue avec tous les rois de la terre, c'est elle qui va grandir, qui va étendre son domaine sur toute la terre par le moyen de l'œcuménisme, c'est cela. Eh bien, que va faire le Seigneur? Il va se dérober, bien sûr, à pareille chose. Mon royaume n'est pas d'ici-bas, dira-t-il à Pilate. Mon royaume, ce qui veut dire mon royaume, n'a rien de commun avec le règne de la mort qui est ici. C'est le règne de la mort sur la terre. Le règne de la mort. C'est le règne de Satan, c'est le règne de la mort. Il n'y a rien de commun. Mon royaume n'est pas d'ici-bas. Il appartient au règne de la vie de Dieu. Il faut donc changer les hommes. Et nous voyons la nécessité de l'Église, la nécessité d'un temps d'arrêt, d'un temps de patience, pour changer des hommes, sans quoi de royaume, il n'y en aurait point. Et nous voyons là, ici, combien les miracles sont utilisés à tort par une foule qui ne comprend pas encore, une foule qui n'est pas encore instruite, éclairée. Combien il faudra l'instruire et combien le Seigneur va travailler à l'instruire parce qu'elle ne comprend pas. Elle a déplacé la pensée du miracle. Elle l'a déplacé et elle l'a amené à son niveau de compréhension, à un niveau terrestre. Tout est déplacé et les miracles sont pris pour dans un sens qui est tout à fait mauvais. Jésus, sachant qu'il fallait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Il est allé sur la montagne crier à son Père, Seigneur, combien il faut que le cœur de ces gens-là soit changé. Car ils n'ont pas encore compris, ils n'ont pas compris. Il faut que ce soit changé. Mes amis, comprenons l'Évangile, comprenons ce qu'est le règne de Christ, comprenons que c'est le règne de la vie et qu'il faut un changement dans les hommes, dans les cœurs. C'est le temps maintenant pour un peu de jour encore. Amen.